Il nous révèle son salaire en direct cet après-midi sur Europe 1. David Castello-Lopez remonte aux origines d'une invention chaque jour et aujourd'hui une invention fort utile, le SMIC.
Oui, tout à fait. Ouais, quand j'avais 20 ans, moi, Stéphane Bern, c'était déjà une resta. Hein, mais moi, je suis toujours pas une resta, mais j'étais quand même moins une resta encore quand j'avais 20 ans. Et du coup, je devais gagner un peu d'argent l'été. Et l'une des choses que j'ai faites, c'est de vendre des ceintures aux Galeries Lafayette. J'étais représentant de la marque Extra Souple et donc toute la journée,
une marque, ça, Extra Souple.
Extra Souple, et donc toute la journée au mois d'août, je mesurais le tour de taille de personnes obèses en me retrouvant donc avec leur ventre collé sur mon visage puisqu'ils étaient obèses, ventre humide bien sûr puisqu'on était au mois d'août. Et je faisais ensuite des petits exposés sur à quel point les ceintures Extra Souple étaient d'une souplesse remarquable et bien sûr que je peux l'ajuster à votre taille. Je vous propose d'aller payer en caisse et je m'en occupe pendant ce temps-là. Et j'ai fait ça de 10h à 19h. Tous les jours pendant un mois, et au terme de tout cela, j'ai reçu un chèque de 1000 euros qui, à l'époque, était le montant du SMIC. Je vous avoue que je trouvais pas ça beaucoup, mais fondamentalement, j'avais plutôt des raisons de m'estimer heureux parce qu'il fut un temps où, si monsieur Extra Souple avait voulu me payer juste 10 centimes,
il aurait pu.
Et ben, il aurait parfaitement eu le droit. Mais alors, d'où ça vient ce SMIC, ce salaire minimum interprofessionnel de croissance? Et question supplémentaire, c'est quoi le rapport avec la croissance, hein? C'est quoi le C de SMIC? Petite parenthèse, j'aimerais remercier Jérôme Gauthier, professeur d'économie à la Sorbonne, pour ce qu'il a écrit sur la question. Sinon, je pense que j'aurais rien compris à ce que je m'apprête à dire maintenant. Et là, j'espère quand même avoir compris, même si je ne suis pas complètement sûr. Alors, il y a un truc qu'on a pas mal oublié aujourd'hui, c'est qu'il y a eu une période de plus de 10 ans, entre 1939 et 1950, où l'État français contrôlait les salaires. Il pouvait dire à des pans entiers de l'économie, non, vous n'augmentez pas les salaires, c'est comme ça. Pourquoi? Eh bien, parce que l'ennemi à ce moment-là, c'était l'inflation. Largement à cause de la guerre. Quand il y a la guerre, l'État met des grandes quantités d'argent dans l'économie pour fabriquer par exemple des objets explosifs à envoyer dans le visage des nazis. Mais en même temps, pour le quidam normal, en temps de guerre, il n'y a pas grand chose à acheter. Et quand il y a trop de thunes en circulation et pas assez de choses à acheter, et bah paf, inflation. Et donc, un des moyens de réguler l'inflation, c'est de limiter la quantité d'argent en circulation. Et pour faire ça, l'un des outils disponibles pour l'État, c'est de contrôler les salaires. Et puis, les syndicats, à partir de la fin des années 40, ils ont commencé à s'énerver un peu. Ils ont dit à l'État, écoutez, on aimerait bien pouvoir négocier nous-mêmes avec les patrons, sans que vous nous disiez ce qu'on a le droit de faire ou pas. Bande de tarbats. Sauf que, il y a un petit risque quand on fait ça, c'est que les employés qui travaillent dans des entreprises qui sont mal représentés par les syndicats, ce que dans le milieu on appelle quelquefois les trous entre les conventions collectives, eh bien, ces gens-là, ils se retrouvent un peu zobés niveau salaire. Et donc, la loi...
Zobés, ça veut dire qu'ils se sont fait avoir, Stéphane. Oui, voilà.
Et donc, la loi du 11 février 1950, l'une des plus célèbres lois sur les salaires, si tant est qu'une loi sur les salaires peut être célèbre, elle a fait deux choses. Un, elle a donné le droit aux syndicats de négocier les salaires directement. Et deux, elle a protégé les salariés en instaurant un salaire minimum qui s'appelle alors le SMIG,
et oui,
avec un G, salaire minimum interprofessionnel garanti. Et il y a des estimations qui disent qu'au moment où le SMIG a été introduit, 30% des salariés gagnaient moins. Donc pour eux, ça a quand même été super cool. Et puis, en 1970, il y a Jacques Chaban-Delmas, l'étalon bordelais, qui a dit « Maintenant, le SMIG avec un G, ça devient le SMIC avec un C. » Est-ce que vous savez quelle est la différence entre les deux ?
Vous nous avez dit de la croissance.
Voilà. Alors, le SMIG,
il est indexé.
Ils sont tous les deux indexés. Mais à quoi ? C'est toute l'idée. Le SMIG avec un G, il était indexé uniquement à l'inflation. Si les prix augmentent, on augmente le SMIC.
Donc, et l'autre, il est indexé sur la croissance.
Oui, mais alors comment ? Le SMIC, lui, il est aussi indexé sur le salaire moyen des ouvriers. Et c'est étonnant, hein. Ouais. J'essaie de rendre ça facile, c'est pas si facile.
C'est pas si étonnant. Pourquoi
c'est ça? Pourquoi c'est étonnant? Parce que c'est quoi le rapport avec la croissance?
Ah oui, c'est vrai.
Et bien parce qu'en 1970, on considérait, pas forcément à raison d'ailleurs, que si le salaire des ouvriers augmentait, c'était que le pays était en croissance économique. Plus il y a de croissance économique, mieux les ouvriers sont payés, et plus on augmente le SMIC. C'est ça le rapport avec la croissance, c'est le C de SMIC. Pour finir, quelques petits fun facts sur le SMIC. C'est pas facile de faire des fun facts sur le SMIC, donc soyez indulgents s'il vous plaît. Fun fact numéro 1, pendant longtemps, il y avait plusieurs SMIC selon que vous habitiez à Paris ou en province. Le meilleur SMIC, non, c'était à Paris, mais si vous habitiez par exemple Angers, bah votre SMIC était moins bien.
Ah oui, c'était indexé sur
ce qui était quand même...
les salaires.
Oui, ça se tenait dans une certaine mesure parce que le lait fraise à Angers, il coûte mal
même
près
du prix qu'à Paris.
Mais ça a été aboli en 1968. Autre fun fact, hein, sous forme de quiz, vous savez quelle a été la plus grosse augmentation du SMIC de l'histoire?
En francs ou en euros?
En pourcentage.
Ah, en pourcentage, ben, je sais pas, 5%.
3.
Non mais quand?
68.
Ah. 68.
Ah pardon, c'était quand? Oh, j'ai compris, c'était combien?
C'est La plus grosse, oui, c'était quand est-ce que c'était la plus grosse ? C'était 68 exactement, les accords de Grenelle, juste après 1968. 35%.
Ah oui, j'étais loin du compte.
Un gros bond quand même, donc en tant qu'ancien vendeur de ceintures, je dis merci.
Voilà. Et oui, parce que vous avez bénéficié. Mmh.
Oui, tout à fait.
Vous n'étiez pas né en 68, à mon avis.
J'étais pas né en 68.
Non. Et vous pouvez vendre une de vos ceintures encore ? Vous en avez ou...
J'en ai gardé une pendant longtemps. Mais
vous avez resté le stock ?
Mais elle a fini par se briser, mais 15 ans plus tard, voilà. Pour l'anecdote, il y avait quand même une autre marque qui était juste à côté qui s'appelait Amboise et leur ceinture était infiniment plus souple que les ceintures extra-souples.
Ça,
et ça m'est arrivé de glisser ça au passage au client en trahissant un petit
peu trahissant votre
la marque pour laquelle je
travaillais. Nous sommes avec le patron de cette marque qui se souvient de vous.
Merci
David Castello.
David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et évidemment sur le site europe1.fr.